sortie de boîte.
On part ce soir à la chasse au trésor, mais c'est une chasse des temps modernes à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, partagée entre réel et virtuel. Car pour pouvoir participer à ce jeu, il faut commencer par télécharger une application sur son smartphone. Le concept est développé à Delémont par une petite équipe que j'ai rencontrée pour un premier rendez-vous il y a une dizaine de jours. Le bureau de nos invités sont situés dans la zone industrielle de la capitale jurassienne, des locaux modernes qui abritent depuis quelques années un incubateur de start-up. C'est dans ce cadre qu'est né le projet dont on va parler aujourd'hui. L'application a un aspect ludique, elle permet au public de partir à la recherche de cadeaux sur le modèle du fameux Pokémon Go, mais elle a aussi pour objectif de développer tout un nouveau modèle de marketing susceptible d'intéresser le monde entier, car comme me le confient nos invités, ils visent un engouement planétaire avec leur application Treasure Hunters. Guillaume Ensi et Pierre Gelzo, bonsoir.
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 Sortie de boîte, Alexandre Rosset.
Pierre Gelzo, vous êtes le directeur commercial et marketing de Treasure Hunters. Guillaume Ensi, vous êtes ingénieur en informatique de votre côté. L'idée de cette application a germé dans la tête de l'un de vos collègues il y a quelques années. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette aventure, Pierre Gelzo ?
Alors écoutez, on est une équipe de jeunes entrepreneurs. On est quatre têtes pensantes chez Treasure Hunters. Et ben voilà, un de nos amis, Monsieur Buzas, a eu l'idée de lancer une chasse au trésor à la Pokémon Go. De là, on a trouvé que c'était une très très bonne idée. Il est d'abord allé voir Monsieur Renner, qui a une certaine expérience dans le milieu de lancement de start-up. On avait aussi déjà lancé des entreprises par la suite, justement via cet incubateur de start-up qu'on a de Delémont. Et l'idée nous a beaucoup plu, du coup est partie de là des brainstorming endiablés entre nous quatre, donc Enzi, Buzas, Roner et moi, et on est arrivé sur le concept qu'on développe aujourd'hui.
Alors vous avez étudié dans le domaine de la finance, du commerce, du biomédical même, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce projet ?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite dans le travail. Et c'est vrai que chercher des nouveaux challenges, développer des nouvelles startups, c'est quelque chose pour moi qui est top. Chaque jour, j'arrive au bureau, je fais quelque chose de différent. Je peux faire un peu de graphisme, je peux faire un peu de marketing, je peux m'occuper des réseaux sociaux. Et c'est ce dynamisme-là qui me fait me lever chaque jour avec le sourire.
Guillaume Ensi, vous avez de votre côté fait des études en informatique. Vous êtes donc resté dans votre domaine de prédilection, si on veut. Qu'est-ce qui vous a amené à Treasure Hunters ?
Alors, j'ai rejoint mes trois collègues fondateurs il y a maintenant bientôt 2 ans pour justement développer le côté informatique, surtout le domaine des applications mobiles, où il y a vraiment là un créneau, je pense, à travailler. Nos dernières startups justement concernent justement les applications mobiles. Donc voilà pourquoi je les ai rejoints. Et puis c'était très motivant, très intéressant d'aller avec eux travailler en tout cas.
C'est cet aspect-là qui vous plaît dans cette aventure, l'informatique ?
Oui, tout à fait. Tous les jours, on développe, mais à chaque fois, c'est des projets différents. On travaille sur des projets novateurs. On a toute personne maintenant a un téléphone mobile dans sa poche. Et c'est très intéressant de pouvoir dire, ben voilà, j'ai développé cette application et les gens l'utilisent, quoi.
Alors, on va s'intéresser à l'application en tant que telle. L'équipe travaille sur son développement depuis plus d'une année, mais elle n'est encore pas officiellement sortie. Quand est-ce que le public pourra commencer à jouer, Guillaume Ensi ?
Alors, on espère pouvoir sortir cette application durant l'été. Actuellement, on a une phase de bêta-test auprès de 300 personnes qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. On travaille encore maintenant à corriger certains bugs, à améliorer encore l'application par rapport aux différents retours qu'on a eu des testeurs. Et puis, on pourra prochainement communiquer sur une date de sortie plus précise.
Alors, 300 testeurs, qui étaient ces gens, justement ?
Des gens qui se sont inscrits, des gens de toute la Suisse romande, qui ont pu tester durant un mois l'application. Et on a remarqué qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement de la part des testeurs. Certains ont même fait plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher des trésors qu'on avait disposés justement dans la nature virtuellement.
Et si on revient un peu en arrière, Pierre Gelzo, comment est-ce que le projet a pu se concrétiser donc, du coup, il y a quelques années ?
Alors écoutez, c'est vrai qu'on a pas mal réfléchi à la chose. Bien sûr, pour lancer n'importe quelle entreprise, il faut des fonds. Et on a déjà beaucoup de chance parce qu'on a été soutenu par le canton, par le biais de ce qu'ils appellent les nouvelles entreprises innovantes, où on a eu ce statut, ce qui est pour nous top au niveau, que ce soit de la fiscalité, aussi de l'aide que nous apporte le canton. Et surtout, on a développé un système de levée de fonds qui n'est pas un financement participatif, un crowdfunding comme on le ferait sur une plateforme comme Kickstarter ou Indiegogo ou des choses comme ça. Là, c'est clairement, donc, on vend des actions de notre société. Donc, à partir de maintenant, le prix de l'action est à 10 francs. À partir de 10 francs, vous pouvez devenir actionnaire de Treasure Hunters en passant par notre site internet. Et on a développé une vraie plateforme où les gens peuvent investir et devenir partenaires avec nous dans cette aventure.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés à pouvoir justement concrétiser ce projet ?
Alors, étonnamment, pas tant que ça. Ben, c'est clair que des difficultés, on en a tous les jours, parce que tester l'application sur les centaines de téléphones qui existent, on peut avoir des bugs sur un téléphone, sur une marque de téléphone, etc. Après, on a eu la chance d'être très très bien accueillis, que ça soit par des partenaires, où on a trouvé des grands partenaires, des grands groupes de médias, des chaînes de fast-food, des marques de montres prestigieuses assez rapidement. Et maintenant, on a quand même plus de... On approche du millier d'investisseurs, c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui nous font confiance dans cette aventure et qui ont investi dans Treasure Hunters et qui sont maintenant actionnaires de Treasure Hunters, donc qui nous suivent dans cette société de près.
Justement, ces actionnaires, ces investisseurs, ils viennent de où ?
Alors, ça a commencé dans le Jura et puis ça s'est très vite exporté. Là, on a énormément en Suisse romande, on commence à toucher un petit peu la Suisse allemande et surtout à l'international où on a été vraiment très surpris de voir que tout d'un coup un Espagnol investissait, des Canadiens ou des personnes d'Abu Dhabi. Donc maintenant on peut dire qu'on a des actionnaires du monde entier.
Comment on explique justement qu'il y ait des gens de ces pays qui s'intéressent à cette application ?
Alors, je pense beaucoup de bouche à oreille. Je pense que c'est un projet qui plaît, c'est novateur, c'est du jeu vidéo, c'est familial. Je pense que c'est un projet qui est très intéressant et qui touche vraiment le grand public.
Alors, vous êtes assuré qu'il n'existait pas d'autres applications du genre, j'imagine, que ce n'est pas facile d'en être sûr.
Alors oui, c'est pas facile en nature. Déjà, il y a des milliers et des milliers d'applications sur les stores des différents téléphones. Donc on a cherché, on est même allé jusqu'à Las Vegas l'année passée au CES pour aller vérifier le marché et voir si ça n'existait pas et voir s'il pouvait y avoir de l'engouement pour ce genre de technologie. Et puis on est revenu avec plein de bonnes nouvelles, et c'est pour ça qu'on a démarré ça en revenant de Las Vegas, où on a vraiment mis les bouchées doubles, et puis que depuis un peu plus d'une année, on travaille à fond sur le projet.
Vous avez constaté un engouement vraiment sur place, enfin de l'intérêt pour ce type de projet ?
Oui, le CES, c'est vraiment le temple de la technologie, puis on a rencontré plein de startups, de personnes à qui on pouvait présenter un petit peu notre pitch, parler de notre société, de notre entreprise, et puis à chaque fois, ça fait mouche.
Guillaume Hennessy, au niveau du coup plus technique, vous avez dû demander des autorisations particulières pour pouvoir justement développer l'application. Comment ça se passe ?
Pas vraiment, non. C'est vrai qu'un des points les plus importants, c'est le respect de la vie privée. Donc une des choses qu'on a dû faire, c'est-à-dire pour pouvoir placer nos trésors, il faut qu'on puisse définir des coordonnées géographiques. Et donc on a une personne qui s'est occupée d'insérer plus de 100 000 points géographiques qui sont dits, nous on appelle ça des points sécurisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas chez quelqu'un dans le jardin, chez une personne, ils ne sont pas sur une autoroute ou à un endroit qui pourrait être dangereux pour la personne. Donc ça a été un gros travail et c'est vraiment un des gros points où on a dû faire vraiment attention pour Treasure Hunters.
Au niveau de la conception, c'était un des points les plus compliqués, si on veut, à gérer, peut-être ?
Oui, pas vraiment. Après, c'est vrai que le point le plus compliqué, c'est justement la compatibilité avec les différents appareils. Il y a des téléphones qui sortent, des nouveaux téléphones qui sortent tous les jours, des nouveaux systèmes d'exploitation qui sortent chaque année. Et il faut sans cesse être au courant et tester à chaque fois l'application sur les nouveaux systèmes. Ce n'est pas évident.
Alors on va à présent entrer dans les coulisses de Treasure Hunters. Jean-Michel Probst s'est rendu dans vos bureaux situés donc à Delémont. Il a visité les lieux en compagnie de Diego Roner, le directeur général et financier de la société. Ce dernier nous présente le personnel qui travaille autour de l'application. Reportage.
Sortie de boîte. Alors, il y a effectivement deux ingénieurs en informatique. Il y a un couteau suisse qui fait un peu tout le reste, qui fait le design, qui fait l'administratif, qui fait du marketing. Et il y a moi-même qui fait la partie commerciale et financière.
Le couteau suisse, c'est qui ?
Le couteau suisse, c'est Pierre Gelzo. Ouais. qui fait vraiment de tout. Donc, vous pouvez passer sur son bureau le matin, il peut faire un peu des choses qui sont liées à des chiffres. L'après-midi, il peut lui-même créer l'avatar de notre application. Et en soirée, encore répondre aux différents courriers sur les réseaux sociaux ou autres. À côté, c'est Chris Buzas, qui lui est vraiment dans la partie développement informatique, qui lui est dans le jargon, on appelle ça un bouffeur de code, qui mange du code, qui développe, qui fait que Treasure Hunters puisse fonctionner sans bug.
Alors, on peut aller vers lui.
Bien sûr, avec plaisir.
Il faut un petit peu contourner le bureau. Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom ?
Chris.
Alors, qu'est-ce que vous faites ? Votre journée type ici ?
Alors, moi, je fais ce qu'on appelle le développement continu. Donc, je cherche de nouvelles voies pour Treasure Hunter, trouver des nouvelles solutions pour arriver à un résultat, de nouvelles fonctionnalités. J'étudie la faisabilité et aussi l'impact que ça aurait sur nos utilisateurs. Et d'après ça, après, je le soumets à mes collègues. Et une fois que c'est validé, on met le projet en place.
Voilà, donc là, on arrive directement avec l'application sur la liste des quêtes disponibles, donc qui correspondent à chaque fois à une chasse au trésor. Et si je vois un trésor qui me plaît, je peux appuyer dessus, je vois un petit descriptif et ensuite je peux partir à la chasse.
J'ai vu que vous êtes sur deux étages. Les trésors, ils se trouvent en dessous ?
Oui, tout à fait. Ouais. Si vous voulez, je vais vous montrer.
Ah, on ose aller voir ?
Bien sûr. Donc on a plusieurs endroits où sont cachés les trésors. On a les entre guillemets, petits cadeaux qui sont dans le local des stocks. On a beaucoup de cadeaux digitaux aussi qui sont simplement stockés sur nos ordinateurs. Alors, voilà déjà le local avec les cadeaux de petite valeur. On voit différents cadeaux, on a des appareils photo, des enceintes, on a tous nos goodies, on a vraiment plein de petits matériels, notamment informatiques, on a des sacs à dos, on a vraiment de toutes sortes, des couteaux suisses. Donc ça, c'est vraiment les cadeaux, je dirais, entre 0 et 1000 francs qui sont stockés ici. Et maintenant, je vous amène au garage.
Là, il y a la porte qui s'ouvre.
J'ouvre le garage. Donc, tout d'abord, une voiture d'une... Je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque, mais une belle allemande,
disons. Une belle voiture, oui.
Et devant, un véhicule un peu plus atypique. C'est une sorte de buggy de quad.
De quad, oui.
Et ça, vraiment, chacun de nos utilisateurs pourra la gagner gratuitement.
Sortie de boîte.
Alors, on l'a entendu, toute une série de cadeaux n'attendent plus qu'à être distribués. Comment est-ce que vous vous procurez ces objets, Pierre Gelzo ?
Alors, la plupart, c'est par le biais de partenariats. C'est vrai qu'on a trouvé des partenariats très intéressants et donc on arrive à avoir soit de très gros rabais, soit des cadeaux qui sont offerts pour être mis à disposition dans l'application. Ce qui est intéressant avec Treasure Hunter, c'est que c'est une sorte de marketing qui est différent pour les entreprises qu'elles ne connaissent pas trop. Et c'est aussi ça qui touche ces partenaires, c'est que c'est un biais de faire de la pub qui est un petit peu différent dans le jeu, qui touche aussi du grand public et de la famille.
Effectivement, donc on sait que la publicité, ça devient difficile dans les canaux traditionnels, si on veut. Dans les retours, justement, de vos partenaires, c'est ça qui ressort principalement, c'est la possibilité de faire de la pub autrement, si on veut.
Oui, c'est ça. C'est, comme vous le dites, c'est de plus en plus difficile de se démarquer un petit peu dans la publicité. Et puis, notre application, apparemment, plaît bien. Vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant pour que ça soit du petit partenaire régional jusqu'au mastodonte du fast-food, par exemple. Donc, on peut toucher n'importe quel type de partenaire avec Treasure Hunters. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Alors justement, vous avez des gros partenaires, des grands noms, des grandes entreprises. Comment une petite start-up de Delémont a pu séduire ces géants ?
Eh bien, au début, on se posait vraiment la question. On a commencé par sonder le marché en allant voir les plus gros, en se disant « on tente le tout pour le tout ». Et puis, on a vu que ça plaisait bien, même aux gros. Notre premier partenariat était avec la plus grosse chaîne de médias en Suisse romande. Du coup, ça nous a tout de suite donné la confiance pour aller voir d'autres et aussi dire « voilà, on a déjà tel et tel comme partenaire ». C'est clair que ça nous a ouvert des portes pour la suite. Et puis là, on a été très agréablement surpris d'être très bien reçus, même parmi les grosses enseignes suisses.
Donc ça n'a pas été compliqué d'entrer en contact au départ, finalement.
Bah, c'est toujours un petit peu compliqué d'entrer au contact, mais on a remarqué que pas tant que ça, finalement, quand le projet est quelque chose de plaisant.
Alors donc, il y a la volonté, vous l'avez dit, en tout cas au départ, de privilégier les grands groupes. Il y avait cette volonté-là. Pourquoi alors faire ce choix plutôt que de se concentrer peut-être au début justement sur des plus petites entreprises, des plus petits partenaires, Guillaume Hensier?
Alors je pense que là, on recherchait des partenariats qui étaient un petit peu à la hauteur de nos ambitions. C'est vrai qu'on vise la Suisse et on vise même peut-être le monde entier. Donc tout de suite, on a essayé d'aller chercher des gros partenaires pour pouvoir justement se démarquer et puis que les gens remarquent qu'on a envie de développer Treasure Hunters.
Mais après, par la suite, il y a quand même aussi la volonté d'ouvrir, si on veut, le panel des partenaires. Pierre Gelzo.
Oui, tout à fait. Alors, c'est déjà le cas. On a déjà des petits partenaires qui travaillent avec nous. On reçoit beaucoup de demandes et pour l'instant, on a vraiment privilégié les gros qui peuvent éventuellement nous offrir des cadeaux sur toute la Suisse en ce moment. Par contre, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de demandes de plus petits. Puis pour nous, il n'y a aucun problème de faire gagner que des cadeaux dans le Jura, par exemple. C'est les Jurassiens qui vont aller les chasser, les personnes qui sont à proximité. Donc il n'y a aucun problème. Et puis là, on a beaucoup de demandes, on est en train de les traiter. Et puis c'est clair qu'il y aura des centaines et des centaines de cadeaux à gagner. Donc plus on a de partenaires, mieux c'est. Donc.
Alors avant de se tourner plus en détail vers l'avenir et d'évoquer les perspectives qui s'offrent à vous, à Guillaume Hensier et Pierre Gelzo, on va faire une petite pause pour parler d'horlogerie. Comme chaque jeudi, Marie-Lise Saillard nous propose sa chronique pile à l'heure.
Pile à l'heure.
Donc à l'intérieur, pas de photos, pas filmé, éviter de parler, respecter les gens et ne surtout pas toucher. Le musée est équipé de systèmes de surveillance. À la moindre chose, j'appelle la sécurité, c'est dehors. Hein.
Aujourd'hui, je vous emmène au musée. On s'intéresse à un objet bien particulier qui a récemment fait son entrée dans les collections du MIH, le Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Cette pièce fait partie des acquisitions 2018, présentées cette année dans une exposition temporaire. Cet objet, c'est un peu le coup de cœur du conservateur du musée, Régis Huguenin.
C'est une horloge murale qui était destinée à être dans une auberge, probablement derrière le comptoir du régisseur, par exemple. Donc c'est une horloge simple, deux aiguilles, heure, minute, un mouvement qu'on rencontre de manière assez répandue, le mouvement de Paris, mais avec une application particulière qui est un réveil relié, ou plusieurs réveils en fait, reliés à différentes chambres. Donc le gardien probablement devait choisir en fonction de l'heure du réveil du client, de se faire lui-même réveiller pour réveiller le client. Et c'est ce que permet cette horloge avec des heures de réveil toutes les demi-heures, entre 1h du matin et 7h30. Donc personne ne se levait tard.
Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne.
Sur la partie inférieure de l'horloge, il y a un système qui permet, via un cordon et une fiche, de relier le nom ou le numéro d'une chambre à l'heure de réveil demandée par son occupant.
C'est des connecteurs en fait électriques où, en fonction du nombre de pièces, donc les chambres à donner ou la chambre de bonne ou d'autres chambres qui sont présentes sur le tableau, eh bien on relie cette chambre à une heure choisie et au moment de cette heure, il y a une sonnerie qui retentit, ce qui permet de voir quelle est la chambre où le client a réveillé.
Au petit musée, des trucs oubliés, abandonnés tout au fond du grenier, que de mystères.
Cette horloge appartenait à un particulier de la région qui a décidé d'en faire don au musée. Régis Huguenin et ses collaborateurs estiment qu'elle date du début du XXe siècle.
C'est ce qu'on a émis comme hypothèse, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de signature. Donc c'est une composition qui nous semble être une construction un peu réalisée de toute pièce et qui ne serait pas issue d'une fabrication industrielle, d'une entreprise qu'on pourrait en tout cas à l'heure actuelle déterminée, mais les recherches sont lancées auprès notamment des spécialistes de l'horlogerie électrique. On verra s'il y a des retours.
Cette rare horloge d'auberge, comme près de 200 autres objets acquis récemment par le Musée international d'horlogerie, est à voir jusqu'au 29 février 2020.
Pile à l'heure.
Nous sommes de retour avec Pierre Gelzo et Guillaume Hensi pour parler de l'application Treasure Hunters. Le jeu devrait donc sortir en Suisse cet été. À partir de là, quelle sera la prochaine étape, Guillaume Hensi ?
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le but, c'est vrai qu'on aimerait viser le monde entier. La Suisse, c'est un petit peu la première étape, notre étape de test. Et puis après, le but, c'est de rapidement s'exporter dans les pays voisins de la Suisse, comme la France ou l'Allemagne. Et puis de viser les États-Unis, ça serait le rêve de pouvoir sortir Treasure Hunters aux États-Unis. Oui.
On imagine qu'aux États-Unis, ça s'annonce peut-être plus complexe que dans d'autres pays, ou pas forcément ?
Pas forcément, c'est vrai que le principe du jeu, c'est justement de poser des trésors qui sont virtuels. On pourrait même actuellement poser des points aux États-Unis depuis nos locaux à Delémont. Après, il faut quand même se renseigner sur les lois et puis sur les façons de faire aux États-Unis qui sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'on a nous ici en Suisse.
Alors vous êtes justement en Suisse actuellement une trentaine à travailler sur l'application en comptant les consultants et les sous-traitants. On imagine que l'équipe devra être élargie si vous voulez vous développer dans d'autres pays, Pierre Gelzo.
Ah oui, c'est sûr. Comme vous l'avez dit, on est une trentaine, on a quand même un grand nombre de consultants. Il y a beaucoup de choses, même si on a les meilleurs développeurs du monde ici à Delémont. La sécurité informatique, par exemple, c'est un métier qui est à part. On a mandaté des sociétés pour tester l'application. C'est clair qu'il faudra qu'on s'entoure du mieux possible. Pour l'instant, on est déjà une bonne petite équipe pour le marché suisse. Et puis, c'est clair qu'il faudra engager pour sortir. Après, l'avantage des applications, c'est comme l'a dit M. Hensi, c'est que finalement, depuis nos bureaux à Delémont, on peut quand même gérer une bonne partie de ce qui se fait. C'est du virtuel, on n'a pas besoin d'aller sur place cacher un cadeau au pied d'un arbre, creuser dans la nature pour cacher le trésor. C'est un bel avantage quand même.
Alors justement, peut-être au niveau des cadeaux, donc on a entendu dans le reportage, il y en a une partie chez vous. Les autres sont envoyés directement par les partenaires. Comment ça se passe ?
Oui, pour éviter pas mal de frais de logistique, on essaye que les partenaires envoient le maximum de cadeaux. Il y a aussi beaucoup de cadeaux qui se font sous forme digitale, comme des bons, des abonnements ou des choses comme ça, ou des cartes cadeaux. Tout ça, c'est des choses qu'on peut envoyer de manière digitale ou par des petits courriers. Et du coup, ça engendre moins de frais.
Guillaume Hensi, concernant l'application en elle-même, est-ce qu'elle est encore appelée à évoluer, celle-là ?
Bien sûr, oui, tout à fait. On a déjà, nous, sous le pied, plusieurs fonctionnalités pour développer éventuellement des versions 2, des versions 3 même. On a beaucoup d'idées, nous, entre les quatre et nos différents partenaires techniques pour justement développer cette application et l'améliorer tous les jours.
Au niveau du concept, alors le concept de base restera le même, j'imagine, mais il y a d'autres idées comme ça que vous avez peut-être ?
Peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que la chasse au trésor, c'est plutôt quelque chose qui est individuel. Voilà, on va chasser nous-mêmes, on n'a peut-être pas envie que nos copains sachent et aillent chercher les mêmes trésors que nous. Peut-être, pourquoi pas imaginer un concept où on va chasser en groupe pour pouvoir créer un peu une émulsion et puis faire gagner des trésors à plusieurs personnes qui puissent en profiter à plusieurs justement.
Guillaume Hensi et Pierre Gelzo, notre émission arrive donc déjà bientôt à sa fin. Merci d'avoir été avec nous pour parler donc de votre application Treasure Hunters qui sera donc officiellement lancée cet été si tout va bien. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, merci.
Et Sortie de boîte revient la semaine prochaine. Retrouvez cette émission ainsi que celle des semaines précédentes sur la page de Sortie de boîte sur notre site internet rfj.ch, rjb et rtn.ch. Merci à Sandra pour la technique et je vous souhaite une très belle soirée.
Sortie de boîte.